Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. On parle Ogoshi et Osotogari aujourd'hui, deux prises de judo. Les arts martiaux sont au programme ce matin, un sport bien sûr, mais au-delà, c'est aussi une façon de canaliser son énergie, renforcer la maîtrise de soi, une gymnastique du corps et de l'esprit, et peut-être une façon d'être au monde. Sans oublier leurs représentations qui font désormais partie de la culture populaire, Bruce Lee et son inimitable petit cri, Goldorak, le robot samouraï, le film Tigre et Dragon ou encore les mangas comme l'Attaque des Titans. Mais comment expliquer que les techniques et également les philosophies qui les accompagnent et conquis en partant de l'Asie tous les continents? Comment comprendre l'engouement pour le judo notamment dans le top 5 des sports les plus pratiqués de France? Pourquoi les arts martiaux nous font-ils du bien? On se posera toutes ces questions aujourd'hui avec vous, bien sûr, 01 45 24 7000 ou sur l'appli de France Inter. Vous pouvez également nous laisser des notes vocales. Dites-nous ce que vous ou vos enfants retirez de cette pratique. Et bonjour, Marie-Père Arnaud.
Bonjour, Thomas Chevillon.
Ma vie de parent, c'est la chronique du mercredi. Alors, le sport, c'est bien pour les enfants, mais aussi et peut-être surtout pour les parents.
Oui, c'est pas toujours facile de trouver le sport qui va convenir aux enfants et aux parents, vous allez le voir.
Et quand ils sont fatigués le soir, quand ils vont se coucher, c'est encore mieux. Oh, votre chronique, ce sera tout à l'heure, un peu après 10h30. Merci d'être avec nous. Grand bien vous fasse, c'est le mode d'emploi de la vie quotidienne. Adjimé.
France Inter. Thomas Chauvineau. Grand bien vous fasse.
Et quatre invités ce matin pour évoquer les arts martiaux. Bonjour Stéphane Duminildo.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Cahier du cinéma, spécialiste du cinéma asiatique et commissaire de l'exposition Ultime Combat Arts Martiaux d'Asie avec Julien Rousseau qui est en face de vous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable donc au musée du Quai Branly Jacques Chirac de l'unité patrimoniale Asie où se tient cette exposition. Professeur Martine Duclos, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes médecin du sport, vous êtes également conseillère scientifique pour le ministère chargé du sport. Et Frédéric Jossinet, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, judokate, championne olympique et aujourd'hui directrice du football féminin à la Fédération française de football. Alors je le disais, le judo fait partie des sports les plus pratiqués de France, 5e, 6e ou 7e position, hein, ça dépend des classements, ça dépend des années, Frédéric Jossinet. Qu'est-ce qu'il vous a apporté à vous quand vous étiez petite, quand vous étiez jeune judokate?
Alors c'est vrai qu'on le dit souvent, hein, le judo c'est un sport, mais c'est aussi une discipline. Et évidemment, on le dit depuis ce matin, un art martial, bien évidemment. Moi, ça m'a apporté, je pense que le judo c'est un sport d'équilibre en fait, avant tout, un sport éducatif. On peut penser aussi que c'est un sport de défense. Ce qui est très important, c'est que je crois que il est adapté en fait à tout âge, à tous les publics et à tous les profils de public. Moi, il m'a apporté surtout de l'équilibre et il m'a entre guillemets canalisé, ce qui permettait aussi à mes parents de d'avoir des soirées un peu plus tranquilles et des week-ends aussi un peu plus tranquilles.
Et c'est-à-dire comparativement, pourquoi vous dites ça?
Parce que j'étais, on va dire, un petit bout de femme qui était, qui demandait beaucoup de, à se dépenser.
Ça vous canalisait.
Voilà, ça me canalisait beaucoup et à contrario, j'avais mon frère aîné qui était lui beaucoup plus introverti et ça l'a aidé justement lui à s'émanciper, à prendre confiance en lui. Et je pense que le judo, voilà, aujourd'hui, c'est tout ça en même temps, c'est que il s'adapte entre guillemets à tous les profils et on se dévoile en fait en pratiquant le judo.
Vous avez un souvenir d'entraînement quand vous étiez petite? Un truc qui s'est passé, qui vous a marqué? Bah alors allez-y, le premier qui vient.
Non, mais j'allais dire en fait moi la première fois, donc c'est mon frère qui a commencé, il a 3 ans de plus que moi et moi je suis allée le voir et en fait ce qui m'a marqué c'est de voir tous ses camarades, tous les judokas habillés d'un kimono blanc avec la ceinture blanche, même niveau, même grade, même considération avec pourtant plus de 30 enfants sur le tatami et ce calme en fait absolu quand justement le professeur donnait des consignes. J'ai trouvé ça vraiment une atmosphère qui m'a vraiment marquée et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu commencer à faire du judo, c'est pas pour les combats, c'est pas pour ce qu'on apprenait et ce qu'on apprend en fait tout au long de sa carrière de judoka, hein, qu'elle soit de haut niveau, mais aussi de l'apprentissage jusqu'au très haut grade. Mais c'était pour cette atmosphère qui régnait dans un cadre en fait spécifique, un dojo. C'est vraiment ça qui m'a plu dès le départ.
Julien Rousseau, donc vous êtes responsable de l'unité patrimoniale au musée du Quai Branly. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très graphique quand Frédéric Jocinet décrit comme ça ces kimonos blancs qu'on voit bien alignés sur un tatami vraisemblablement vert et orange, avec chacun des ceintures différentes. Et on le voit très bien dans l'exposition, la gestuelle est très travaillée et on parle d'art martial, mais dans le mot art martial, il y a le mot art avant tout et on l'oublie souvent.
Oui, bien sûr, les arts martiaux d'Asie, donc comme on le voit dans l'exposition, ils sont très bien mis en scène d'ailleurs dans le cinéma, hein, dans la section de films aussi qu'a proposé Stéphane tout au long du parcours. Ils sont étroitement liés aussi aux arts du spectacle. On voit par exemple le lien entre le cinéma de Kung-Fu et l'opéra de Pékin. Aussi les premières démonstrations martiales qui existaient en Chine déjà depuis plus de 2000 ans. Donc il y a un côté très chorégraphique aussi, très spectaculaire, qui ressort tout à fait dans la fiction, mais aussi hein, dans la pratique des arts martiaux qui sont aussi où il y a un art à la fois. Donc un art du spectacle et
mais un art du geste également, de la précision et de l'élégance du geste, Stéphane Duménildo.
Bah oui, je crois que c'est par exemple ce qui fait du bien en effet quand on voit les films interprétés par Bruce Lee, c'est de voir ce corps absolument étonnant qui maîtrise l'espace avec une grâce inouïe, hein. Bruce Lee était pas seulement un combattant, c'était un danseur, donc c'était un champion de cha-cha-cha par exemple.
Martine Duclos, donc je le disais, vous êtes médecin du sport. Qu'est-ce que le judo, ou les arts martiaux en général, hein, développe particulièrement chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant ?
Ça développe beaucoup de composants en termes de conditions physiques, mais pas seulement. Donc en termes de conditions physiques, bah, tous les composants qui nous intéressent, c'est-à-dire à la fois la force, l'endurance, mais aussi, comme l'a dit Frédéric Jocinet, l'équilibre, la coordination. Ça, c'est aussi un travail de posture qui est très important, donc justement pour l'équilibre, la souplesse aussi, mais aussi effectivement des éléments au niveau cognitif et mental, la confiance en soi. Ça apprend aussi effectivement à canaliser son énergie, voire son agressivité. Et puis sur les générations, enfin les gens qui vieillissent, ça aide aussi à améliorer le développement cognitif. Et il y a des études récentes qui montrent en plus que ça a un effet sur la timidité, c'est-à-dire sur l'humeur. Ça diminue l'anxiété, ça diminue le stress. Donc tous ces effets sont évidemment extrêmement intéressants en termes de santé, à la fois de prise en charge des maladies, mais surtout de prévention santé. Et ceci surtout à tous les âges de la vie. C'est-à-dire que quel que soit l'âge auquel on va commencer et continuer le judo.
C'est donc
enfin, le judo ou n'importe quel
art martial. Mais quand vous dites tous les âges de la vie, c'est-à-dire on commence à dès qu'on sait marcher et on termine quand on ne peut plus marcher?
Oui, parce qu'il y a actuellement, en fait, le judo fait part... Enfin, décidément, je suis focalisé sur le judo, mais ouais. Moi aussi, j'ai fait du judo, donc voilà. Mais la plupart des arts martiaux, on propose, dans le cadre du médico-sport-santé, c'est-à-dire dans le cadre de l'adaptation à la pathologie ou à la personne qui vieillit, en fait, des protocoles ou une adaptation des entraînements à la pathologie ou à l'âge de la personne. Donc, effectivement, l'entraînement sera pas du tout le même chez un enfant de 10 ans, chez un jeune adulte ou un adolescent en pleine forme, plein de force, et puis chez quelqu'un qui va avoir soit des raideurs ou effectivement plus une peur de tomber. Donc l'entraînement ne sera pas du tout le même, mais il est tout à fait possible.
Alors, puisqu'on parle beaucoup judo, il n'y a évidemment pas que le judo, hein, mais il se trouve que c'est la championne Clarisse Abeignenou qui est la marraine de l'exposition Ultime Combat. Et elle signe quelques mots dans l'exposition, je la cite. « Être une athlète est une expérience physique et spirituelle totale qui demande un profond équilibre à l'intérieur de soi, autant que dans son rapport aux autres. » Et c'est ce qu'on voit aussi très bien dans l'exposition, c'est cet aller-retour constant entre le soi, l'individu qui se développe, mais aussi l'ouverture. Stéphane Rousseau.
Oui,
Julien Rousseau.
On parlait tout à l'heure du judo, ben on est tout à fait dans l'esprit hein, du fondateur de cette discipline qui est Jigoro Kano, qui fonde le judo en 1882 à partir des anciennes techniques de combat féodales, donc des anciens samouraïs, donc ces techniques qui s'appelaient des jujutsu, qui va moderniser. Et Jigoro Kano est tout à fait à l'opposé de l'image du grand guerrier invincible, puisque c'était un professeur d'université assez
oui,
petit.
Oui, il n'était pas très balèze, quoi. Hein.
Très petit, et puis on lui refusait d'ailleurs l'entrée des dojos. Et il se décrivait lui-même comme quelqu'un de très réservé. Et à travers la pratique du judo, il va découvrir ce qu'il va, enfin d'après ses propres mots, découvrir un trésor en fait dans la pratique du judo, qui est à la fois le développement évidemment physique, la force de la personne, mais aussi son rapport au monde et son ouverture aux autres. Voilà, donc c'est toute cette double dimension qu'on rapprocherait aujourd'hui des un petit peu des techniques de développement de la personne. Et c'est vraiment ce que va promouvoir Jigoro Kano à une époque où les arts martiaux, justement, cette période Meiji...
Fin du 19e. Hein.
Voilà, la fin du 19e, où ces arts martiaux, justement, étaient, du fait de leur connotation un petit peu archaïque et féodale, étaient délaissés. Et il va vraiment les valoriser pour les enseigner, justement, pour toutes ces valeurs.
Alors, est-ce que c'est vrai, cette légende qu'on raconte, comme quoi il aurait imaginé le judo, parce que un jour d'hiver, il a vu la branche d'un chêne... cassé sous le poids de la neige, alors que le saule pleureur, très souple d'à côté, n'avait aucun problème?
Alors, c'est souvent des histoires qu'on trouve à l'origine des arts martiaux. Hein. C'est aussi un petit peu le Be Water de Bruce Lee. Hein. C'est à la fois la souplesse et la force. Voilà, c'est ces images qu'on utilise, en fait, pour définir les arts martiaux. Les arts martiaux d'Asie, donc oui, Jigoro Kano, c'est vraiment le fondateur.
Oui, mais on ne sait pas si c'est en voyant un sol pleureur soutenir le poids
peut-être
de la neige qu'il a eu cette idée-là, quoi. Hein, ça restera une légende. Eh bien, puisque vous l'avez cité, je voudrais vous faire écouter quelqu'un qui a la part belle hein, dans cette exposition. Il a une salle pour lui tout seul, pleine d'écrans, et il se reconnaît rien qu'à son cri.
Tout le monde dit que tes mouvements sont rapides et très puissants, mais moi j'ai rien vu de tout ça hier soir. Et tu nous as raconté que dans la boxe il fallait apprendre à ne faire qu'un avec son corps. Eh bien, vas-y, on te regarde faire.
Comment tu te sens?
Ça va, Joie?
Trop mal? Ça va, le coup qui t'a mis?
Bien, bien.
Oh, le coup!
Ouais, c'était extraordinaire!
Super!
Ouais, ouais. Le plus grand boxeur! Ouais.
Frère Lung, s'il te plaît, je veux que tu m'apprennes à faire ça. Hein. Hey, j'ai pourtant l'impression de t'avoir entendu dire que l'entraînement physique ne servait à rien.
Mais c'est parce que je parlais du karaté des Japonais. Ah. C'est la boxe chinoise, ça, c'est différent.
Ça vous fait sourire, Stéphane de Benildo, commissaire de l'exposition Ultime Combat, cet extrait de Bruce Lee.
Bah, évidemment, oui, à cause des doublages français qui, sont, qui sont très drôles. Mais évidemment,
pas donc, très bon, on peut le dire.
Oui. Mais on entend bien les cris, évidemment, les cris de chat totalement étranges et ambigus de Bruce Lee. Hein, parce que Bruce Lee, il a une façon aussi de... C'est un séducteur. Aussi, quand il se bat, il séduit son adversaire, il fait des parades de pan, il est à la fois masculin, féminin, il a un corps qu'en fait, qu'on peut pas définir en quelques mots. Il est multiple.
Il est multiple et il y a une chose qu'on oublie aussi, ou dont on parle assez peu chez Bruce Lee, c'est que c'était également, il avait une vision du décolonialisme, il avait une vision de la défense des minorités, enfin c'était un combattant politique en quelque sorte.
Oui, bah ça rejoint ce qu'on disait sur les arts martiaux, qui sont à la fois des pratiques personnelles, mais qui peuvent être communautaires et nationales aussi. Et c'est vrai que les films Bruce Lee étaient diffusés en Afrique, beaucoup, donc il était un héros de l'Afrique, et il a été une source d'inspiration pour les Black Panthers aussi, qui se sont mis à fréquenter les dojos. Dans la fureur de vaincre, il fait partie d'une minorité en fait des Chinois qui sont occupés par les Japonais et qui vont donc se battre pour leur indépendance.
Et puis vous allez proposer une nuit Bruce Lee hein, au musée du Quai Branly, c'est bien cela, le 26 novembre prochain.
Oui, bien sûr, hein, parce qu'il faut bon là on a fait cette installation, on est évidemment très fiers, on entre dans le monde de Bruce Lee, un peu comme dans une sorte de cathédrale, hein, ce qu'on a voulu faire, une chambre au miroir où Bruce Lee, finalement, on arrive à se battre contre lui-même, parce que personne ne peut battre Bruce Lee à part lui-même, son principal adversaire, c'est lui-même. Et il fallait aussi se confronter aux films eux-mêmes, donc offrir évidemment de revoir les films de Bruce Lee.
Et l'actualité récente nous a offert un curieux écho, comme seule l'actualité peut le faire, avec l'affaire Alec Baldwin, le décès de la photographe de plateau, puisque son fils est mort peu après dans les mêmes circonstances. Une arme qui devait être chargée à blanc et qui, en vérité, était vraiment chargée.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi l'un des thèmes du Jeu de la mort, donc le dernier film interprété par Bruce Lee, en fait, qui a été remonté par les studios, où Bruce Lee au départ meurt, enfin c'est une fausse mort, de la même façon avec des armes qui auraient dû être à blanc et qui sont en fait chargées par les triades.
Ce qui renforce évidemment son caractère presque mythique.
Ben, il est mort extrêmement jeune, à 32 ans, hein, il a une carrière qui est très courte pour ce qui est en tout cas ses films majeurs. Et oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est devenu absolument légendaire. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs où 50 ans plus tard, je pense qu'on peut aller n'importe où. On peut aller en Russie, on peut aller en Afrique, on peut aller en Inde avec une photo de Bruce Lee et tout le monde le reconnaîtra. En fait, donc il a vraiment inventé un langage universel. Il a fait des arts martiaux, du kung-fu, un langage universel. Et je pense qu'il n'y a peut-être que Charlie Chaplin, en fait, hein, qui peut rivaliser.
Nous sommes aujourd'hui dans Grand Bien Vous Fasse avec une émission consacrée aux arts martiaux, aïkido, judo, taekwondo, kalari, payate ou boxe chinoise. Pourquoi nous font-ils du bien? On attend toujours vos appels, vos réactions au 01 45 24 7000 ou sur l'appli de France Inter. C'est donc Grand Bien Vous Fasse et nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Ce titre pas contente, toute la programmation musicale est à retrouver sur le site de l'émission.
France Inter. Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Quatre invités aujourd'hui dans Grand Bien Vous Fasse pour parler des arts martiaux. Le professeur Martine Duclos, qui est médecin du sport. Frédéric Jossinet, qui est ancienne championne olympique de judo. Et les commissaires de l'exposition Ultime Combat Arts Martiaux d'Asie au musée du Quai Branly, musée Jacques Chirac, Stéphane de Ménildo et Julien Rousseau. Si on regarde, Frédéric Jossinet, les chiffres, par exemple, des pratiquantes de foot que vous connaissez bien puisque vous êtes directrice du foot féminin, le nombre de licenciés femmes femmes dans le foot, c'est une pour 10 joueurs à peu près, sur les, il y a 200 000 licenciées femmes pour 2 millions de joueurs au total. Hein. Pour le judo, en revanche, on est à une pour trois. C'est un sport où les femmes sont très représentées. Et c'était à peu près la même chose d'ailleurs pour le karaté. Comment vous l'expliquez, Frédéric Jossinet ?
Alors oui, c'est un fait. Hein, on est une fédération au judo, en tout cas en termes de pratiquantes, où il y a plus de 38%, donc quasiment 40% de féminines. Et ce chiffre est en évolution fortement depuis pas mal d'années maintenant. C'est vrai que la répartition, elle est assez... il y a 40% de femmes, il y a plus de 60% chez les 3 à 11 ans. Et pourquoi autant de, j'allais dire, de féminines, et j'ai presque envie de vous dire justement par rapport au foot, pourquoi pas. Alors déjà, c'est un voilà, au dojo, quand on rentre dans un dojo, il y a des petites filles, il y a des petits garçons, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes, des moins jeunes. Et en fait, c'est justement une particularité du judo, à savoir mélange cette mixité, au-delà des mixités sociales, hein, bien évidemment, mais cette mixité presque paritaire, finalement, dans la pratique. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, le judo, mais il y a aussi des disciplines, par exemple, comme le taïso, qui sont disciplines encadrées par les professeurs de judo, qualifiés à cette pratique, qui plaît beaucoup aux femmes, mais où aujourd'hui, on voit de plus en plus aussi... d'hommes venir pratiquer dans nos dojos le taïso. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi en termes de visibilité. Quand on voit à la télé, dans les compétitions, les plus grandes compétitions, il y a une compétition où on voit des filles, donc des masculins qui combattent, mais on voit aussi des garçons. Donc en fait, le rayonnement du judo, les petites filles et les petits garçons, comprennent naturellement, et les parents aussi bien évidemment, parce que ce sont eux qui vont inscrire les enfants au judo, comprennent très rapidement en fait que c'est un sport pratiqué pour tous et pour toutes. C'est comme ça, et je pense que entre guillemets le rayonnement des plus grands champions, mais aussi championnes, avec notamment Clarisse, notre marraine de l'exposition, c'est justement de montrer que elle sert entre guillemets de rôle modèle, mais vous avez bien compris qu'on a une très très belle aussi équipe féminine de judo depuis de nombreuses années, avec beaucoup de titres olympiques et mondiaux, et c'est vrai que du coup les parents se disent naturellement que ils peuvent mettre leurs petites filles, leurs adolescents, enfin tout le monde peut pratiquer en fait le judo, et on se pose pas la question contrairement au foot.
Sur franceinter.fr, ces messages qui nous arrivent, notamment Pilou qui nous dit « J'ai converti mon mari au Qigong pendant le premier confinement. Nous suivions des cours sur YouTube. C'est devenu une activité régulière à pratiquer partout qui nous permet de très facilement nous échapper à un enfermement qui était difficile à supporter. Le Qigong est synonyme de bien-être et d'harmonie dans notre couple. » Et puis cet autre message qui nous dit « D'origine vietnamienne, quand j'étais petit, je disais que je faisais des arts martiaux et que j'étais le roi du Kung-Fu. Personne n'a voulu jamais se bagarrer avec moi, personne ne m'a jamais embêté. Merci à l'imaginaire des arts martiaux. » Et nous sommes au téléphone avec Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Vous pratiquez l'aïkido depuis 20 ans.
Oui, voilà, à peu près, depuis un peu plus de 20 ans. Et j'ai 57 ans. Commencé assez tard.
Qu'est-ce qui vous a amené à ce sport ?
Essentiellement, enfin, au tout début, sans vraiment connaître ce qu'était l'aïkido, c'était la vue d'une démonstration en fait qui m'a attirée, et c'est l'aspect non agressif de ce que je voyais, très rond, esthétique dans les déplacements et dans les techniques, et pas d'agressivité. Voilà, c'est ça qui m'a attirée en premier lieu. Et alors, je l'avoue, la tenue, parce que nous avons un hakama et c'est très beau sur un kimono. Voilà. Mais bon, c'est anecdotique. Mais c'est surtout cet aspect rond et non agressif qui m'a attiré en tout premier.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça continue à vous apporter ? Parce que 20 ans de pratique, c'est quand même, ça devient sérieux, là.
Ça devient sérieux. Alors, j'ai un professeur qui disait, on ne sait pas ce qu'on serait devenu si on n'avait pas pratiqué l'aïkido. Donc, bon, maintenant, je sais ce que je suis devenu en le pratiquant, mais avant tout de la maîtrise l'aïkido nous permet de travailler. C'est un art martial de défense, et nous permet de travailler physiquement. Physiquement sur l'agressivité que l'on reçoit éventuellement, que l'on peut recevoir physiquement ou plus psychologiquement. psychologiquement. Et le propos des techniques nous permet de gérer cela et avant tout dans une relation pacifiée, puisqu'il s'agit de se défendre sans blesser. Alors, voilà, donc on expérimente physiquement cela à travers des techniques, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut aisément comprendre, que l'on peut reporter dans la relation à l'autre et dans des contextes professionnels, par exemple, un peu stressant, et ça aide énormément à la concentration et à la relation pacifiée.
Et est-ce que ça a changé quelque chose en vous, fondamentalement ?
Je pense que oui, parce que c'est devenu une partie de ma vie. Mon époux pratique également, nous pratiquons ensemble, donc oui, ça fait partie intégrante de notre vie. Donc oui, ça l'a sans doute changé et fait évoluer de manière particulière, c'est certain. Et donc dans cette idée aussi d'être à l'instant présent, et ça c'est quelque chose que l'on cultive aussi à partir de la pratique des armes que l'on pratique en complément, puisque nous faisons du kenjutsu japonais également. Et oui, c'est certain que nous sommes construits grâce à cet art martial.
Eh bien, merci Isabelle de nous avoir appelé aujourd'hui au 01 45 24 7000. Bah, bonne journée à vous, puis bon entraînement d'aïkido pour le prochain. Martine Duclos, vous êtes médecin du sport. Alors là, on parle de sportifs adultes qui se dépensent, mais vous avez fait le constat assez récemment que la sédentarité est de plus importante, notamment chez les jeunes. 75% du temps assis pour les 14-15 ans. Martine Duclos ?
Oui, je suis toujours là.
Ah, on ne vous entendait pas. Ça y est, on vous entend. On vous a retrouvé. Vous avez entendu ma question ? Je parlais de la sédentarité.
Oui, j'ai bien entendu. Oui, la sédentarité, en fait. Alors, sédentarité, j'entends bien le temps passé assis. C'est-à-dire que les adolescents ont un temps passé assis qui couvre les deux tiers de la journée. Donc, la journée ne faisant que 24 heures. Ça veut dire que parallèlement, ils ont un temps d'activité physique qui est tout à fait insuffisant. Donc ça fait un profil, sachant que les deux sont, il faut à la fois à faire de l'activité physique. Je rappelle que chez les adolescents, c'est pas 30 minutes par jour, c'est une heure tous les jours au minimum.
De recommandation.
Et il faut passer le moins de temps possible assis. Donc ils ont un profil qui est déjà mauvais pour leur santé. Et le problème, c'est qu'ils le débutent très jeune, donc ça pose des problèmes pour leur pronostic de santé dans les années à venir, parce que quand on vieillit, vont se surajouter d'autres stress qui peuvent être les stress professionnels, la compétitivité, le stress familial, le stress économique. Donc tout ça, c'est des facteurs qui vont surajouter et qui vont encore impacter sur leur pronostic de santé, sur leurs facteurs de risque et in fine sur leur qualité de vie aussi.
Mais il y a pourtant du sport à l'école, hein, c'est 3 heures au programme si je ne m'abuse.
Ah oui, mais vous calculez 3 heures déjà. Quand vous faites une heure de sport, il a bien été calculé que quand on fait une heure de sport, bon, il faut aller dans la salle de sport, en espérant qu'elle soit sur le lieu, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut se déshabiller. On va vous expliquer pendant l'heure de course ce qu'il faut faire. Ensuite, il faut penser qu'il faudra revenir dans la salle, enfin revenir dans les vestiaires, se changer, pour revenir en cours. Donc en gros, sur une heure de PS ou de sport, il y a en gros 20 minutes actives. Donc si vous faites 3 fois 20 minutes, ça fait une heure. Or, les enfants, adolescents, sont censés faire au moins donc 7 heures par semaine. Donc ça suffit pas. L'activité physique qui est proposée à l'école ne suffit pas à répondre aux besoins physiologiques des enfants.
Et ça représente un réel problème pour vous qui êtes médecin ?
Ah oui, parce que en fait, nous on le mesure par bien des éléments, mais la mesure la plus simple pour comprendre, c'est la capacité physique, la capacité des enfants, donc la capacité en endurance par exemple, et on sait qu'actuellement, cette capacité en endurance, c'est le premier facteur pronostique de mortalité précoce ou de développer des maladies chroniques comme l'obésité, le diabète et maladies cardiovasculaires. Or on sait qu'en 30 ans, cette capacité en endurance, elle a diminué de 25%. Donc c'est extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire que effectivement, c'est ce profil-là, on l'a jamais eu chez les enfants. Donc votre capacité en endurance, hein, si je dois faire un schéma au très simple, c'est simplement la capacité qu'a votre organisme à consommer et utiliser l'oxygène. Alors nous, nous sommes des organismes aérobies, nous fonctionnons à l'oxygène. Nos muscles, ils consomment de l'oxygène. Et nos muscles, c'est la contraction, mais nos muscles, c'est aussi ce qui consomme le glucose, ce qui consomme et utilise les graisses. Donc si on a des muscles qui sont pas fonctionnels, qui sont pas capables d'utiliser correctement l'oxygène, eh bien, ça conduit pendant des années et des années et des années, mais bon, l'adolescence, on est déjà à 17, 16 ans d'années de vie, eh ben, ça conduit au diabète, ça conduit à l'hypercholestérolémie, ça conduit à l'hypertension artérielle, et tout ça, c'est un ensemble de facteurs de risque qui explique que bah, maintenant, on fait un infarctus en moyenne à 35 ans, alors qu'avant, c'était 55 ans. L'âge du diabète de type 2, c'est plus 65 ans, mais c'est 45 ans, voire maintenant, parfois chez des adolescents. Donc, c'est des phénomènes qu'on n'a jamais vus, et c'est ça, c'est inquiétant.
Pratiquons donc du sport. Merci pour cette précision que vous nous avez apportée, Martine Duclos. Sur franceinter.fr, Ralph nous dit « Par pitié, ne faites pas toute votre émission sur le judo uniquement. Bien sûr, il s'agit du plus populaire, mais n'oubliez pas le karaté, le tai chi, l'aïkido, nous en avons parlé. Et puis aussi le kung-fu. Je voudrais vous faire écouter l'extrait d'une série. Alors, elle ne figure pas dans l'exposition, mais je pense que pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, c'est un peu comme une Madeleine de Proust.
500 livres de charbon et de fer brûlant. Je ne pourrais pas, maître. Je n'ai que la force d'un homme et sa faiblesse.
C'est parce que tu es un homme que tu pourras le faire, Scarabée.
Je ne comprends pas.
Comme la plus douce des argiles devient la plus dure des briques, une feuille fragile, le diamant, ou la lave d'un minerai en fusion se durcit en un métal rigide, l'homme, lui aussi, peut se surpasser.
Comment ?
En forgeant lentement le chi qu'il a en lui-même, bien invisible entre le fini et l'infini, l'essence intérieure de ton esprit et la puissance illimitée de l'univers.
Petit scarabée interprété par David Carradine dans la série Kung Fu qui avait été diffusée entre 1972 et 1975 et qui a popularisé comme Bruce Lee finalement cet art méconnu à l'époque qui est le Kung Fu, Julien Rousseau.
Oui, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le Kung Fu, hein, c'est un terme générique qui s'est diffusé d'ailleurs largement à travers le cinéma. On utilise plutôt en Chine le terme de Wushu qui lui-même est un terme aussi très général hein, puisqu'il désigne une grande variété en fait hein, d'écoles martiales et qu'on regroupe depuis aux alentours du XVIIe siècle sous la distinction de styles externes. Voilà, donc les kung-fu, ce sont des arts martiaux assez athlétiques, assez acrobatiques, qui développent une force musculaire, voilà, qui est assez, enfin, qui se distingue donc depuis cette période, hein, depuis qu'on a distingué les arts martiaux internes, externes d'une part et internes, donc des autres arts martiaux qui eux développent une force plutôt intérieure. Donc on parlait tout à l'heure du tai chi. Voilà, ça c'est l'école martiale interne la plus connue et qui développe en fait une sorte d'élasticité à la fois des mouvements que ce soit dans les enchaînements ou dans les entraînements et qui s'inscrit aussi comme d'autres écoles martiales bien sûr et comme tout quelque part tous les arts martiaux chinois dans des traditions d'anciennes gymnastiques thérapeutiques et de mise en lien en fait du corps avec toutes ces forces de la nature justement pour dépasser hein, ces limites de la force physique et ce qu'on appelle aussi le chi hein, qu'on a cité tout à l'heure, c'est cette force vitale universelle que les techniques martiales permettent justement d'utiliser et de maîtriser.
Mais alors vous parlez d'universalité, ce qui est assez surprenant c'est que justement l'universalité des valeurs transportées par les arts martiaux sont on les retrouve en Afrique, on les retrouve en Amérique, on les retrouve en Europe, alors qu'elles partent d'Asie avec a priori des cultures très très éloignées. Comment on peut l'expliquer ?
Alors déjà tout à l'heure on parlait de Bruce Lee bien sûr puisque c'est vraiment le personnage incontournable.
Il a incarné mais
au-delà de l'acteur il a incarné donc dans ses films.
Mais ces valeurs qu'on retrouve dans les arts voilà. martiaux qui sont disons propulsées dans tous dans tous les continents.
Oui tout à fait parce que Bruce Lee il incarne quelque chose aussi qu'on a évoqué tout à l'heure c'est le kung-fu comme arme du peuple. En fait il utilise le nunchaku qui est une arme aussi de paysan hein, c'est une arme dérivée du fléau hari et dans ses films il met en scène justement cette histoire particulière des arts martiaux et notamment des arts martiaux chinois, de lien avec des révoltes, des luttes populaires et de défense du peuple contre des formes d'oppression. Voilà, Bruce Lee défend les salariés d'une usine de glaçons contre des exploitants capitalistes ou voilà, les Chinois pendant l'occupation.
Mais Bruce Lee, à lui tout seul, n'explique pas pourquoi on retrouve sur les cinq continents la philosophie et pourquoi ces arts martiaux ont pris, pourquoi on pratique du judo en Afrique, pourquoi on pratique dans l'Océanie, alors c'est peut-être un peu plus proche de l'Asie, mais pourquoi dans ce cas en Alaska on fait aussi du karaté.
On est dans la fiction avec Bruce Lee, mais c'était en fait pour illustrer le fait qu'il reprend une réalité en fait de cette histoire des arts martiaux qui sont liés à des mouvements de révolte populaire. En Chine, il y a eu les boxers, les Taiping, la secte du Lotus Blanc depuis le 12e siècle. Voilà, il y a toute cette histoire de lien entre la pratique martiale et aussi l'histoire plus largement. Mais les origines des arts martiaux sont multiples, hein. Bien sûr, il y a à la fois ce lien avec des révoltes populaires, il y a aussi des connaissances militaires, il y a aussi ce rapport au corps, à la médecine, à la nature, et cette multitude en fait d'origines fait qu'on les retrouve aussi forcément un petit peu partout, hein. Il y a beaucoup d'arts martiaux qui sont liés à des techniques militaires directement, comme la boxe thaï par exemple, qui sont d'anciennes techniques de combat militaire qui sont ensuite, qui sont sortis hein, du champ de bataille pour devenir des disciplines sportives. Voilà, donc cette multitude d'origines en fait qu'on retrouve aussi des arts martiaux un petit peu partout.
Sur franceinter.fr, ce message d'Escale qui nous dit merci de bien distinguer les arts martiaux et les sports de combat et rappeler que l'aïkido est un art martial japonais sans compétition. 10h41 sur France Inter, l'heure de retrouver la chronique Ma vie de parent de Marie Perarnaud.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Et vous allez nous expliquer, Marie, pourquoi les parents tiennent à ce que leurs enfants fassent du sport, et ce n'est pas forcément pour les raisons qu'on croit.
Non, non, non. Je suis un peu fourbe, je vous l'avoue. Alors, quand je suis venue ce matin, elle m'a dit, tu vas voir, c'est super, on va faire une émission sur l'Asie, la fascination. Mes enfants m'ont dit, oh, super, maman, tu vas pouvoir parler des mangas ou de Kung Fu Panda. Alors, vous n'êtes pas passé loin, je vous le dis, mon cher Thomas, d'une chronique sur Naruto et sur quels parents ont donc acheté les 99 tomes de One Piece. Non, alors ce matin, je vous le dis tout clairement, on va parler des bienfaits de la pratique sportive. On vient d'en parler un petit peu. Pourquoi il faut que nos enfants fassent du yoga, certes, mais du sport en règle générale, parce que je ne vais rien vous apprendre ce matin. Faire du sport de manière régulière apporte énormément de choses à notre progéniture.
Alors quoi, par exemple, pourrait nous expliquer le parent bienveillant que vous êtes ?
Alors le parent bienveillant, extrêmement concerné par le développement psychomoteur de ses enfants, vous répondrez « Cher Thomas, vous savez, la pratique d'un sport favorise le développement musculaire, l'acquisition de l'équilibre, la coordination. Et vous n'êtes pas sans savoir que le sport permet en sus d'acquérir confiance, autonomie, esprit de décision et d'entraide. »
Alors ça, c'est pour le principe hein, de bien belles valeurs, mais dans la vraie vie des parents, c'est différent. En vrai, vous diriez quoi ?
Alors mon vrai moi, vous avoue, mais pathétiquement ce matin, que la principale raison pour laquelle je tiens vraiment à ce que mes enfants fassent du sport et une heure par jour, c'est pour qu'ils soient fatigués le soir.
Mais je comprends bien.
Ah, vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans l'empathie. Alors le principal souci quand même du sport, c'est d'en trouver un qui convienne à votre enfant.
Et ça, c'est loin d'être évident.
Alors c'est vraiment difficile. Alors soit on a un petit Alexis Pinturo en devenir, soit on a une Laure Manaudou, ça y est, mais non.
Pinturo qui est un skieur, hein,
oui,
tout le monde ne le sait pas forcément.
Ben non, parce que je suis de Savoie.
Ah, mais c'est bon.
Alors
ça.
Moi, je me suis dit, ça y est, tout le monde connaît.
Non, mais non. Faut le préciser.
Mais oui. Alors les vrais enfants, les vrais de vrais, ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Alors ils hésitent, ils veulent essayer des sports étonnants, ils veulent tenter le twirling bâton, la voltige sur poney neurasthénique. Et s'ils adorent un sport, vous pouvez être certain qu'à partir du moment où vous avez payé la cotisation, la licence, acheté le matériel, finalement, bon, en fait, ça leur dit plus rien du tout. D'ailleurs, Thomas, ça vous intéresse, je revends un équipement de roller hockey complètement neuf, injuste au corps à ceux qui en doutent toute beauté.
On verra après pour le bon coin.
Également.
Pourtant, c'est pas si difficile de choisir un sport.
Non, alors quand ils sont petits, on a toute cette panoplie de baby basket, baby poney, baby gym, bébé nageur, peu importe
bébé
votre
judo.
Choix, bébé judo, tout à fait. Cela vous demandera juste de vous lever chaque samedi matin, environ vers 8h30. Vous savez, c'est ce qu'on appelait jadis la grasse matinée.
Alors, a priori, quand ils grandissent, il y a un peu plus de choix que les bébés qui sont déjà bien, bien nombreux. Pour autant, ça n'arrange pas forcément les choses.
Non, en fait, il faut que ça colle avec notre emploi du temps de parents overbookés. Sinon, on est bon pour se transformer en taxi mercredi, soirée et week-end. Alors, faites attention aux horaires afin d'éviter, tout comme moi, que le cours d'escalade en milieu naturel du premier vous oblige à patienter au bord d'un lac avec les deux autres pendant que la quatrième fait du kayak polo par 3 degrés.
Oui, mais ça, c'est la montagne, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Un conseil peut-être pour clore cette chronique sportive.
Alors, je ne sais pas si je vais être de très bons conseils, vu que mes enfants font donc de l'accro, trampoline, du baseball, du biathlon, le tout en soirée, les week-ends, à 1000 endroits différents. Mais vous savez quoi, ils sont heureux et ils dorment le soir.
Alors, ce qui est quand même l'essentiel.
On est d'accord.
Qui dorment le soir, leur bonheur, ça passe après.
On est d'accord, Thomas. Voilà, alors choisissez des sports, des sessions multisports qui leur permettront d'en découvrir énormément, et ça c'est vraiment très important quand ils sont jeunes. Et puis tout simplement, rien ne vous empêche de faire du sport en famille, une rando, une piscine, un match improvisé. Non seulement, je vous le rappelle, ça les fatigue, ce qui est quand même notre objectif de vie, et surtout ça permet de créer du lien, de partager des choses intéressantes, de parler de manga par exemple, ou de la dernière expo du Quai Branly.
Merci Marie Perrarnaud, votre chronique est à retrouver sur le site de France Inter à la page Grand Bien vous fasse. Les arts martiaux sont aujourd'hui dans l'émission. N'hésitez pas à nous raconter, si vous êtes pratiquant, ce que ça vous procure quand vous posez les pieds sur le tatami. 01 45 24 7000 ou sur l'appli de France Inter. I'm so defensive, I get caught up in the modern day, the fishing net that's pulling at my feet. I'm so defensive, I got bongos thumping in my chest, and something tells me they don't be for me. Californienne et sautillante de la chanteuse Rémi Wolf, le titre Grumpy Old Man. Il est 10h48.
Ne quitte jamais ton adversaire des yeux.
France Inter.
Même quand tu le salues.
Grand bien vous fasse.
Voilà, c'est ça.
Thomas Chauvineau.
Un grand bien vous fasse consacré ce matin aux arts martiaux avec quatre invités. La professeure Martine Duclos, médecin du sport, Frédéric Jossinet qui est judokate, ancienne championne olympique, et les commissaires de l'exposition Ultime Combat Arts Martiaux d'Asie au musée du Quai Branly, Stéphane de Ménildo et Julien Rousseau. Et puis vos messages qui continuent de nous arriver. Jacques nous dit, médecin en prison, ancienne ceinture noire de judo qui pratique le kendo depuis une dizaine d'années, j'ai 60 ans, très utile pour décharger toute son énergie et son agressivité et retrouver le calme dont il a besoin dans sa vie pro, dont j'ai besoin dans ma vie pro, nous dit Jacques. Et puis Sève qui nous dit, merci beaucoup pour cette émission. Les arts martiaux comptent de nombreuses pratiques novatrices qui rendent hommage aux origines. Je pratique le Judo, un nouvel art martial mêlant Kung Fu, Tai Chi et Nunchaku, entre autres. C'est formidable, tant pour le corps que pour l'esprit. C'est vrai qu'on le voit bien dans l'exposition, il y a plusieurs mentions qui sont faites, notamment à l'acupuncture, au souffle, au lien qu'il y a finalement entre la pratique des arts martiaux et la thérapie, Stéphane Duménildo.
Oui, par exemple, le docteur Wong Fei-Hung, le héros de Il était une fois en Chine, interprété par Jet Li, était médecin, donc c'était quelqu'un qui connaissait à la fois l'acupuncture et des principes de médecine pour guérir les corps, mais ça lui servait aussi par ailleurs à, dans sa pratique des arts martiaux pour combattre ses ennemis. C'est toujours très utile de savoir où on peut frapper, où on peut attaquer, pour être le plus précis possible, pas pour faire mal, mais aussi pour, par exemple, bloquer les points vitaux de son adversaire.
C'est-à-dire dans cette idée que celui qui peut guérir sait aussi tuer.
Bah, de toute façon, il y a quelque chose de très anatomique aussi dans les arts martiaux. Si on voit par exemple la 30e chambre de Shaolin, l'extrait qu'on a présenté, il y a par exemple la chambre des jambes, la chambre du bras, la chambre du poignet, la chambre de la main. Il y a toute une déconstruction anatomique du corps qui permet au moine Shaolin de vraiment de contrôler chaque articulation, chaque membre. Donc voilà, ce sont des décors qui trouvent leur accomplissement dans cette sorte de construction, en fait.
Martine Duclos, médecin du sport, donc sur ce lien qu'il peut y avoir entre les thérapies et les arts martiaux.
Oui, comme je le disais, maintenant que effectivement, l'activité physique est reconnue et l'activité physique et sportive est reconnue comme une thérapeutique à part entière. On commence à avoir vraiment non seulement des études qui comparent les gens qui font rien aux gens qui pratiquent les arts martiaux sur les effets sur la santé, mais même on a, nous, ce qu'on aime le mieux, c'est des méta-analyses, c'est-à-dire qui comparent les études qui sont faites vraiment, qui sont rigoureuses, donc qui pour nous sont parfaites sur le plan statistique. Donc voilà, on a des comparaisons d'études les mieux faites, et qui montrent vraiment nettement qu'on peut affirmer vraiment que les arts martiaux permettent à la fois d'améliorer la santé mentale, donc le stress, l'anxiété, peuvent aussi avoir un effet. Par exemple, c'est intéressant chez les personnes âgées. Ça diminue le risque de chute chez les personnes âgées, puisque ça agit sur l'équilibre et la coordination. Que dans, par exemple, le qigong, améliore la santé cardiovasculaire. Pourtant, vous voyez, c'est pas intense, le qigong. Mais pourtant, il y a des effets sur la santé cardiovasculaire, diminution du risque cardiovasculaire. Il y a aussi des effets sur la santé, le vieillissement cognitif. Donc, vous voyez, il y a vraiment des effets qui sont maintenant démontrés sur la santé physique et mentale. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Donc, ce qui montre effectivement l'importance des arts martiaux dans la santé, à la fois en prévention, parce que c'est bien le traitement, mais surtout dans la prévention pour éviter le développement des maladies chroniques. Mmh. Et puis, se sentir bien dans sa tête et dans son corps, tout en plus en se faisant plaisir. Ça, c'est quand même un élément important. On ne fait pas que du sport pour être, bon, certes pour sa santé, mais il faut d'abord se faire plaisir.
Se sentir bien dans sa tête, dites-vous. Frédéric Jocinet, vous avez à un moment travaillé au ministère des Sports, et j'ai lu une interview de vous dans L'Équipe, excellent journal, une interview assez fascinante où vous expliquez comment, finalement, vous aviez réussi à appliquer les techniques que le judo vous avait apprises dans votre vie professionnelle, la souplesse dont vous avez eu besoin pour travailler dans un ministère. Frédéric Jocinet ?
Oui, je vous entends. Oui, mais en général, c'est-à-dire que bien sûr que je l'ai appliqué quand je travaillais au cabinet de l'ancienne ministre des Sports, Valérie Fourneron, mais c'est quelque chose que j'applique dans ma vie professionnelle tous les jours. C'est-à-dire que cet équilibre entre l'apprentissage, justement l'équilibre, se fixer aussi des objectifs et continuer à apprendre, c'est quelque chose que l'on fait dès qu'on met un pied dans un dojo, évidemment au judo, mais quels que soient les arts martiaux, c'est-à-dire que on apprend tous les jours et on apprend, on l'a bien dit depuis ce matin, on apprend aussi à se canaliser, à canaliser des fois son trop plein d'énergie aussi, et puis justement, et puis j'allais dire quelque part aussi apprendre à rester calme, quel que soit tout ce qui peut se passer en fait dans une journée. Et je peux vous dire que dans un cabinet ministériel, il s'en passe beaucoup.
Bah, soit vous racontez vraiment quelque chose de très précis, une anecdote qui pourrait être croustillante, soit vous vous arrêtez là comme vous voulez, Frédéric Jocinet.
Non, mais c'est-à-dire que c'est vrai que dans les cabinets ministériels, vous savez comment ça fonctionne. Il faut être proactif, bien évidemment, mais aussi très très réactif, notamment la veille au soir des questions au gouvernement. Il faut faire des écrits très très vite en rapport aux questions qui vont être posées dans la matinée. Et quand je dis très très vite, ça peut tomber aussi à 4-5 heures en pleine nuit. Donc Il faut savoir, ok, on est fatigué, mais en même temps, on connaît en fait l'objectif. On sait aussi pourquoi on est là. On a un objectif aussi qui est d'accompagner aussi le ou la ministre.
Et ça s'apprend avec le judo également.
En fait, c'est bien sûr, c'est des cette question d'équilibre, de rythme, de s'adapter. Je pense que vraiment le judo particulièrement, mais aussi les arts martiaux, c'est s'imposer, mais c'est aussi s'adapter en fait à l'adversaire. Et donc, en fait, tout ça, ça a un lien après avec
ce qu'on peut faire dans la vie professionnelle. Il y a un dernier son avant qu'on arrive à la fin de l'émission que je voudrais vous faire écouter. C'est celui de toute une génération qui était enfant à la fin des années 70 et dans les années 1980. Il fête ses 45 ans en ce moment. Il est vachement grand et vachement balèze.
Goldorak, go! Missile Gamma!
Alcor, décolle! Alcor, dépêche-toi!
Mégavol!
Fulgure au point!
Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger!
Voilà, Goldorak, hein, diffusé à partir de 1978. Alors pour l'anecdote, moi je suis allé voir cette exposition avec mon fils de 14 ans, qui est assez réfractaire au simple mot « expo ». Et en arrivant, il s'est exclamé, il m'a dit « Oh papa, il y a Goldorak, il y a des mangas, il y a des consoles de jeux ». Et c'est ça, on commence par un moine du Kerala bouddhiste du 5e siècle, qui aurait inventé en tout cas le premier art martial, hein, le Kalaripayat. Et ça se termine par Street Fighter sur une console Nintendo, un jeu vidéo. Donc ça a traversé les continent, on l'a dit, mais les arts martiaux ont aussi traversé les siècles.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans l'exposition, à la fois, qui est aussi une exposition, enfin on l'espère, qui soit très grand public, s'adresse à la fois au jeune public, c'est aussi une exposition voilà, de beaux-arts, il y a des peintures impériales chinoises, il y a des masses de théâtre, des installations aussi d'armures historiques, d'armures de samouraï notamment. Voilà, donc,
mais sur cette pérennité, comment vous pouvez l'expliquer ?
Il y a parce que les arts martiaux, en fait, ils touchent à une multitude de domaines. On l'a vu, que ce soit l'histoire militaire, bien sûr, l'histoire aussi du patronage des arts par des élites de militaires, que ce soit en Inde ou au Japon, par exemple. Voilà, donc les arts martiaux racontent cette histoire aussi. C'est pour ça qu'ils sont aussi présents, finalement, dans les arts, puisqu'ils sont liés à ce pouvoir politique des élites militaires aux différentes périodes. Et puis il y a aussi tout le lien avec la nature, on le voit à travers la peinture de paysages en Chine.
Et les imitations aussi de postures de montres religieuses pour développer telle ou telle technique de combat.
Voilà, il y a toutes ces représentations de la nature, et puis tout le contexte culturel en fait, et religieux aussi parfois, qu'ont intégré les arts martiaux et que les pratiquants d'arts martiaux aussi ont intégré à leur pratique martiale, et qui fait que dans l'exposition on peut voir toute cette diversité en fait d'objets présentés, et puis jusque bien sûr aux robots qui sont ces guerriers du futur, dont Goldorak reprend bien sûr à la fois les armures, les casques, et puis les armes aussi des anciens samouraïs, parfois sous des formes ultra sophistiquées.
Astéro H, merci à vous d'avoir été en direct avec nous dans Grand Bien Vous Fasse. Ce matin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain à 10h, même heure, pour une émission consacrée aux transfuges de classe, des parents ouvriers ou agriculteurs, des enfants magistrats ou universitaires, et on attend déjà vos réactions sur l'appli de France Inter.